Bonjour Olivia, bonjour à tous. À Ajaccio, Emmanuel Macron rend hommage au préfet Claude Erignac, 20 ans jour pour jour après son assassinat. Un acte qui ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas, affirme le chef de l'État. Nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Ludovic Piétenu. Une nouvelle journée de mobilisation des syndicats étudiants et lycéens contre les réformes sur l'accès à l'université et le baccalauréat, suivi de François-Pierre Noël. Les principales bourses européennes en repli dans le sillage des autres marchés mondiaux. À Paris, le CAC 40 perdait en milieu de matinée 2%. On sera en ligne avec Romaric Godin de Mediapart. En Allemagne, alors qu'on attend toujours cet accord de grande coalition, le syndicat IG Metall et le patronat parviennent à un accord sur les salaires et sur le temps de travail. Correspondance, explication de Pascal Thibault. La guerre en Syrie, dans le nord-ouest du pays, l'armée syrienne et ses alliés tentent toujours de reprendre le contrôle d'Idlib. Une dizaine de personnes auraient été atteintes de troubles respiratoires après des attaques à l'arme chimique. Les États-Unis se disent alarmés par ces informations. Commentaire de Valérie Crova. Une disparition, celle de l'écrivain Mathieu Riboulet, lauréat du prix décembre 2012 pour les œuvres de la miséricorde. Il avait 57 ans, on lui rendra hommage tout à l'heure. Et puis l'invité de la séquence interview, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, en direct donc avec Ludovic Piétenu à Ajaccio dans la dernière partie de la grande table, Olivier Gesbert.
Dans la tête du sociologue Bernard Lahire, les sciences sociales ont leur mot à dire sur les rêves et réciproquement, les rêves ont beaucoup de choses à nous dire sur nous et aussi sur la société dans laquelle on vit. C'est son parti pris. Il publie aujourd'hui l'interprétation sociologique des rêves à la découverte. Il sera notre invité dans la deuxième partie de la grande table.
On commence donc par cette visite en Corse du chef de l'État. Première matinée, elle a commencé par un hommage rendu au préfet Claude Erignac. Nous sommes 20 ans après son assassinat. Emmanuel Macron qui a inauguré une place du nom donc de Claude Erignac où un olivier avait été planté. Et il assure que la justice sera rendue sans amnistie.
Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas. Ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat. Rien de plus haut, ni de plus noble. On a tué un homme parce qu'il était un serviteur de la République. Certains d'entre vous, parmi les militants de l'identité corse, vous êtes révoltés devant le dévoiement d'une cause déshonorée par la lâcheté. Le sang et la mort. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est pour cela qu'elle s'est levée. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la croie comptable ni coupable de cette ignominie. Parce qu'elle ne voulait pas que certains, au nom de la Corse, se fassent une gloire de ce forfait en l'habillant du beau nom de résistance.
Extrait donc du discours d'Emmanuel Macron ce matin dans cet hommage au préfet Erignac. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour à tous.
Vous avez suivi pour nous cette cérémonie d'hommage où vraiment tous les détails évidemment et tous les mots surtout comptaient.
Oui, chaque mot présidentiel pesait au trébuchet. Un discours sur la Corse ne s'improvise pas. Emmanuel Macron se savait attendu. Il a tenu d'abord à rappeler la grandeur du peuple corse. La Corse, terre de fierté et de dignité, par exemple, a-t-il dit. De rappeler aussi ce que la Corse a fait pour la République, pour la libérer en 1944. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bateaux, les troupes étaient partis d'ici, non loin d'Ajaccio, à Porticcio, dans la baie, ici, pour aller libérer d'abord la Provence. La Corse a ses morts pour la patrie et ses héros, dit-il, ne sont pas des lâches. Suivez mon regard, les lâches, ce sont pour lui ceux qui s'en sont pris il y a 20 ans à un préfet de la République, on vient de l'entendre, le ton grave, beaucoup plus grave qu'à l'habitude, plus ferme aussi. Macron veut s'afficher en chef de l'État. Chaque mot compte aussi quand il dit que ces crimes ne se défendent pas, ne se plaident pas, allusion inévitable à la profession d'avocat. Et qui est avocat ici en Corse? Le patron de l'exécutif corse, Gilles Simeoni. Antoine.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Et à vos côtés, le président du Parlement corse, Jean-Guy Talamoni. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous allez rencontrer donc le chef de l'État tout à l'heure en fin d'après-midi. Il affirme vouloir ménager un avenir à la Corse sans la faire sortir du giron républicain. Qu'est-ce que vous allez lui dire en premier lieu ce soir au chef de l'État?
Et ce que nous allons lui dire, c'est bien entendu que nous avons, en décembre dernier, connu en Corse un véritable tremblement de terre sur le plan politique, avec l'élection d'une liste entièrement composée de nationalistes et son élection à la majorité absolue, 56% des suffrages exprimés. C'est un fait politique majeur qui d'ailleurs faisait suite à d'autres élections que nous avions gagnées, avec certes moins d'écart, depuis 2 ans. Et ce fait politique, il faut le prendre en compte. C'est la volonté des Corses aujourd'hui de voir redéfinies les relations entre la Corse et Paris. Nous allons donc évidemment défendre le projet pour lequel nous avons été élus, et c'est ce que nous allons dire le président du Conseil exécutif et moi-même.
Alors, parmi les réactions politiques, on notera celle de Laurent Wauquiez ce matin, qui définit une ligne rouge sur l'avenir de la Corse, qui formule ainsi: la Corse est et restera française. Et puis il y a aussi Manuel Valls qui se déclare opposé à une référence même symbolique à la spécificité corse dans la Constitution. Il affirme qu'il faut savoir dire non, sinon cela ne s'arrêtera jamais, dit-il. Jean-Guy Talamoni, finalement Laurent Wauquiez, Manuel Valls, ça fait partie un peu des personnalités que vous qualifiez vous-même de faucons, c'est-à-dire de personnes qui ont des positions fermes sur cette question. Cela dit, la question se pose quand même de savoir si nous sommes dans un processus qui s'enclenche, qui commence, ou si vous demandez simplement un rééquilibrage ponctuel.
Bien, il faut évidemment qu'un processus de dialogue s'engage. Un rééquilibrage aussi, c'est vrai, compte tenu de ce que les Corses désirent et ce qu'ils ont montré par leur vote. Donc effectivement, nous savons très bien que tout ce qu'il y a dans notre projet, même s'il a été validé démocratiquement, tout ne va pas être traité en l'espace de quelques jours. Nous le savons très bien. Mais il faut s'asseoir autour de la table et il faut le faire sans tabou, sans préalable. Nous-mêmes n'avons pas formulé de préalable, et il ne doit pas y avoir non plus de ligne rouge. Lorsque l'on veut discuter, on s'assied, on prend les questions les unes après les autres et on essaye de faire avancer les choses. Nous pensons qu'il y a vraiment une chance historique de régler définitivement la question corse. Tous les voyants seraient au vert dès l'instant où la bonne volonté serait partagée des deux côtés de la table. Voilà. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à discuter loyalement et nous avons la volonté de le faire. Il faut que cette volonté politique soit partagée du côté parisien également.
On reparle du fond de ce dialogue, Monsieur Talamoni, dans un instant après ce journal, dans la séquence interview. L'actualité sociale avec des syndicats, lycéens, étudiants, enseignants qui appelaient à une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui pour demander les retraits de plusieurs réformes. Donc d'abord celle sur l'accès à l'université et puis le projet du nouveau baccalauréat, le SNASUP, FSU, l'UNEL, la SGL, l'UNEF aussi, les syndicats FO, la CGT Sud, etc. et d'autres réclament le retrait du projet de loi sur ces nouvelles modalités d'accès à l'université. Et ils s'érigent aussi contre le projet du nouveau baccalauréat dont la réforme doit être annoncée, rappelons-le, très prochainement. François-Pierre Noël, bonjour.
Bonjour Antoine.
Les contours de cette agitation dans le domaine de l'éducation, ils sont encore assez mal définis. Alors évidemment, cette journée est intéressante à suivre. Comment se présente-t-elle?
Alors plusieurs manifestations sont prévues dans toute la France cet après-midi et 3 universités sont déjà bloquées à Toulouse, Rennes et Nice depuis ce matin. Cette journée de mobilisation, c'est le prolongement de la grève des enseignants, vous l'avez dit, et des étudiants de la semaine dernière, qui avait réuni environ 20 000 personnes dans tout le pays. Les revendications restent les mêmes. Tout d'abord, contre la mise en place de Parcoursup, le nouveau système d'inscription pour les universités. Les représentants étudiants l'estiment inégalitaire et s'y opposent totalement. Du côté des syndicats d'enseignants, on s'inquiète de la future réforme du baccalauréat qui doit être dévoilée d'ici la mi-février. Ils craignent de faire moins d'heures de cours et plus d'accompagnement sur le futur de chaque élève, ce à quoi nous ne sommes pas formés, selon un syndicaliste. Les profs ont peur également que cette réforme, qui devrait donner plus de poids au contrôle continu, accentue les inégalités entre les lycéens à l'entrée à l'université. Car si un lycée est bien réputé, les notes dans cet établissement seront peut-être mieux considérées par les facultés pour prendre tel ou tel élève. Dans les différents cortèges cet après-midi, cette union entre profs et élèves est un symbole fort contre le gouvernement, actuellement en pleine concertation sur le futur baccalauréat et qui attend encore le vote définitif du Sénat concernant sa réforme Parcoursup qui devrait intervenir jeudi.
François-Pierre Noël, merci. À propos de la transformation de la fonction publique, Gilles Legendre, qui est porte-parole La République en marche à l'Assemblée nationale, estime que la fonction publique peut s'inspirer de la culture du privé. Entretien aux Échos, il explique que la transformation peut effectivement s'inspirer de cette culture du privé en réunissant l'alliance entre l'agent public et l'usager autour d'une notion qu'il propose d'appeler le bénéfice citoyen. Bénéfice citoyen qui est, selon lui, la transposition dans la sphère publique de cette expérience client, résumé par le leitmotiv bien connu du client au centre, au cœur de la transformation des entreprises depuis une bonne dizaine d'années. Fin de citation donc de Monsieur Legendre. Les principales bourses européennes qui poursuivaient leur mouvement de repli ce matin dans le sillage des autres marchés mondiaux, à commencer par Wall Street, des actions qui reculent nettement face à la remontée assez rapide des rendements des obligations sur fond de crainte de durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40 perdait au milieu de matinée près de 2%. On est en ligne pour parler de cette situation avec Romaric Gaudin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste économique à Mediapart. Alors bon, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il s'agit d'une correction que l'on pourrait qualifier éventuellement de saine et en tout cas d'éphémère, ou est-ce que c'est le début peut-être d'un krach qui serait plus durable ?
Mais ça pourrait être en fait les deux, c'est-à-dire que la situation sur les marchés a été extravagante, on va dire, depuis plusieurs années, parce qu'elle est alimentée évidemment par toute cette liquidité très importante, près de 6 000 milliards qui a été distribuée par les banques centrales sur les marchés. Mais en réalité, on ne sait pas si cette correction qui effectivement est un peu saine et correspond à des excès sur les marchés va s'arrêter et s'apaiser, ou au contraire s'emballer et donner lieu à un nouveau krach boursier. Et ça, les deux possibilités sont ouvertes, même si évidemment la situation actuelle ressemble de près à ce qui s'est passé en 2007.
Avant la crise de 2008. Alors, on assiste, comme toujours, voilà, dans ces cas-là, à un conflit des interprétations, on pourrait dire ça. Certains mettent l'accent sur le constat que ce que vous venez de faire, l'abondance de liquidités qui a été déversée, notamment par les banques centrales, qui viennent alimenter les bulles spéculatives qui sont sans trop de rapport avec l'économie réelle. Et puis, il y a d'autres qui soutiennent, non, que les fondamentaux de l'économie sont bons, que ces ajustements ne sont donc qu'un réglage, finalement, assez sain. Alors, comme tout repose sur la confiance, évidemment, la question est de savoir qui va être le plus cru, on va dire, par les acteurs économiques. Quelle est l'idée qui va s'imposer ? Est-ce que ça se passe à ce niveau-là dans le rapport entre finance et confiance ?
Oui, la vraie question, c'est de savoir si finalement le sous-jacent économique dépend de cette politique des banques centrales ou si effectivement actuellement, il y a dans l'économie une vraie dynamique qui peut s'auto-entretenir. Et là, pour le moment, là aussi, on n'a pas encore cette réponse. Ce qui est certain, c'est que même si la croissance s'est accélérée, elle reste relativement faible historiquement, alors que les banques centrales ont injecté des milliards et des milliards de liquidités. Donc le vrai problème, c'est est-ce que cette économie réelle est véritablement déconnectée de l'économie financière, ou est-ce que finalement la reprise n'est que la partie, une conséquence de l'emballement des bourses de ces dernières années. Et dans ce cas, évidemment, la correction boursière aura des effets assez fort sur l'économie réelle. Ce qu'il faut bien dire, c'est que finalement, cette économie financière, elle, en tout cas, elle est de plus en plus complexe, de plus en plus... Elle s'auto-entretient de plus en plus, et là-dessus, l'économie réelle apparaît de plus en plus comme une sorte d'effet secondaire de son développement, du développement de l'économie financière.
Romaric Gaudin, merci beaucoup de Mediapart d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. On dit un mot de l'Allemagne où il y a une double actualité sociale et politique, des négociations pour un accord de coalition SPD-CSU qui ont repris ce matin. Madame Merkel se dit prête à faire des concessions importantes et sortir enfin le pays de l'impasse politique. Pendant ce temps, sur le plan social, le syndicat IG Metall et le patronat parviennent dans la nuit à un accord sur les salaires et sur le temps de travail qui prévoit cet accord, notamment une augmentation des salaires et la possibilité aussi pour les salariés donc de passer de 35 à 28 heures de travail hebdomadaire sur une période maximale de 2 ans. En contrepartie, le patronat obtient plus de facilité pour porter à 40 heures sur la base du volontariat le temps de travail hebdomadaire pour faire face avec plus de souplesse à une hausse temporaire des commandes. Voilà en gros quels sont les termes de cet accord. Pascal Thibault, bonjour.
Bonjour.
Bon, ça paraît assez équilibré. En tout cas, c'est rendu possible par, il faut le dire, la bonne santé de l'économie allemande qui continue.
Effectivement, l'économie allemande se porte bien. Les prévisions de croissance pour cette année ont encore été revues à la hausse. Les carnets de commandes de l'industrie et spécialement de l'industrie de la métallurgie sont bien remplis. Dans certaines régions, on cherche même plutôt de la main-d'œuvre qualifiée désespérément. Donc, le syndicat IG Metall estimait aussi qu'il était en droit de demander une augmentation de salaire sensible, plus 6%, c'était ce qu'il exigeait. À l'arrivée, ce sera 4,3% plus quelques primes sur 27 mois, donc ça sera un petit peu en dessous. Et puis donc, il y avait cette revendication différente, plus, on pourrait presque parler liée à la qualité de la vie, avec la possibilité à partir de l'année prochaine, pour les salariés de la métallurgie qui le souhaiteront, vous le disiez, pour une durée allant de 6 à 2 ans, de passer de 35 à 28 heures par semaine. La compensation salariale voulue par l'IG Metall n'a pas pu être obtenue, sauf quelques journées de congés supplémentaires, mais c'est une flexibilité supplémentaire dans une époque où les salariés souhaitent aussi avoir plus de temps pour leur vie privée.
On attend aussi alors ce fameux accord pour la grande coalition, la grosse coalition, la GroKo. Ce n'est plus qu'une question d'heure, sans doute ce soir ou demain, mais il fera encore un vote du SPD. On n'est pas encore complètement au bout du processus, malgré la situation économique. En tout cas, finalement, personne, aucun des grands partis, en tout cas, ne souhaite vraiment retourner devant les électeurs. Donc, sans doute, il n'y aura pas de problème pour annoncer cet accord. Pascal Thibault.
Oui, effectivement, il y a peu de doutes sur le fait qu'on parvienne à un accord, mais même s'il sera atteint à l'arraché, on utilisera donc la marge de manœuvre qu'on s'était laissée, à savoir jusqu'à ce soir et peut-être jusqu'à ce soir tard, pour trouver un accord pour les 4 années à venir, pour une nouvelle grande coalition qui n'emballe pas les militants du SPD, mais l'alternative, à savoir de nouvelles élections, n'est pas plus attrayante pour eux. Dans un sondage paru ce matin, le SPD confirme sa dégringolade avec 17% des voix, 2 à 2 points seulement du parti d'extrême droite, l'AFD. Donc de nouvelles élections, ce n'est pas une option très, très attrayante pour les militants du SPD, mais les 450 000 membres de ce parti devront voter sur l'accord trouvé, et peut-être début mars, après le résultat, eh bien, le nouveau gouvernement Merkel pourra être élu et mis en place.
Pascal Thibault de RFI, en direct de Berlin. Le président polonais Duda annonce qu'il va finalement signer la loi controversée sur la Shoah, destinée à préserver l'image de son pays à l'étranger, qui a provoqué de vives tensions avec Israël, les États-Unis ou encore l'Ukraine. Le chef de l'État demande au tribunal constitutionnel de vérifier toutefois sa conformité avec la loi fondamentale en ce qui concerne la liberté d'expression, notamment sur le passage qui impose des peines de prison à ceux qui accusent la nation ou l'État polonais de participation aux crimes nazis. La guerre en Syrie, le régime de Damas tente toujours de reprendre le contrôle de plusieurs secteurs de la Ghouta orientale, c'est cette enclave rebelle assiégée à l'est de la capitale. Au moins 16 civils tués ce matin encore par des frappes aériennes. Des raids qui interviennent alors que l'ONU réclame une cessation des hostilités pour pouvoir distribuer des aides, évacuer les blessés. Et puis dans le nord-ouest du pays, l'armée syrienne et ses alliés tentent de reprendre le contrôle d'Idlib. Il y a des secouristes et des médecins qui évoquent depuis plusieurs jours l'utilisation de chlore. Effectivement, une dizaine de personnes ont été atteintes de troubles respiratoires après des attaques à l'arme chimique. Les États-Unis se disent alarmés par ces informations. Mais Valérie Krova, force est de constater qu'on assiste aujourd'hui à une banalisation de cette utilisation des armes chimiques, alors qu'on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2013, Washington parlait encore d'une ligne rouge.
Une ligne rouge rappelée par Emmanuel Macron le 23 janvier à Paris lors d'une réunion sur l'impunité de l'usage de ces armes, réunion à laquelle participait d'ailleurs le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Le président français a répété que toute utilisation d'armes chimiques ferait l'objet d'une riposte immédiate. Mais il faut se rendre à l'évidence, Damas continue d'employer des gaz toxiques, en l'occurrence du chlore, sans que cela n'aboutisse pour le moment à des représailles. Avec toujours cette même explication, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, ne veut pas cautionner un texte qui pointe du doigt Damas. Il faut rappeler que Moscou s'était porté garant du désarmement chimique en 2013, lorsque les Occidentaux ont menacé d'intervenir intervenir militairement. Ces mêmes Russes ont opposé à plusieurs reprises leur droit de veto, ce qui a conduit notamment à la disparition de l'organisme d'enquête de l'ONU sur les attaques chimiques en Syrie, organisme qui avait conclu à la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans deux attaques en 2014 et 2015 et qui soulignait que des stocks d'armes chimiques avaient été conservés alors qu'ils auraient dû être détruits en totalité. Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer que du gaz sarin a été utilisé dernièrement sur les enclaves rebelles. C'est d'ailleurs un argument repris à leur compte par la Russie et la Syrie qui parlent de propagande occidentale. Pour autant, l'usage de la force militaire est toujours à l'étude, a fait savoir la semaine dernière un haut responsable américain. Donald Trump n'avait pas hésité à le faire l'an dernier en bombardant une base militaire après une attaque chimique menée par l'aviation du régime sur la localité de Ran Cherun qui avait fait 83 morts.
Valérie Crova. 12h51, nous repartons en Corse pour l'invité de la séquence interview, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, interrogé par Ludovic Piatenu.
Oui, avant que vous ne rencontriez le chef de l'État en fin de journée, Jean-Guy Talamoni sera vers 19h. Comment sonder ce que pense Emmanuel Macron? Ça va être votre première entrevue avec lui depuis son élection au mois de mai, et puis bien sûr ensuite la vôtre au mois de décembre. Bon, vous nous dites, on l'a entendu en début de journal, que vous êtes ouvert à une discussion sans préalable. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, puisqu'on connaît déjà vos revendications?
On connaît nos revendications, ce ne sont pas seulement nos revendications. C'est un projet qui a été validé par la majorité, une majorité absolue, donc le suffrage universel. Et puis, un grand nombre de ces...
C'est-à-dire vous vous êtes fait élire sur...
Sur la base d'un projet.
La base d'un projet qui contenait la co-officialité, le statut de résident...
Oui, tout à fait. Oui, et l'amnistie également pour les prisonniers et les recherchés. Mais je dois aussi préciser, et ça n'est pas un détail, c'est que ces trois revendications ont été votées par l'Assemblée de Corse avant même que nous ne prenions les responsabilités en 2015.
Et à l'époque, la majorité... Donc c'est le suffrage universel.
Et non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Qui pose des revendications à Paris.
Tout à fait, non, mais à l'époque, ça n'était pas une majorité nationaliste qui était présente à l'Assemblée de Corse. Et pourtant, ces différents points avaient été votés. Donc, ce sont des revendications qui dépassent très largement notre majorité, qui elle-même est une majorité plus que confortable. Et il y a des élus d'opposition qui sont tout à fait favorables à ce que nous demandons s'agissant...
Vous avez même fait voter une résolution vendredi soir dernier, qui a été votée par les marcheurs, on va dire, oui. En tout cas ceux qui représentent aujourd'hui le mouvement d'Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait. Bon, nous avons bien sûr accepté d'intégrer leurs amendements, hein, donc il y a eu un point de jonction qui a été trouvé, et ce texte effectivement a été voté par l'ensemble de notre majorité et par les marcheurs, effectivement, ce qui semble avoir causé un certain trouble, mais pourtant...
On pourrait même parler de courroux, puisque le maire de Bonifacio, qui est donc censé être proche du mouvement de la République en marche et d'Emmanuel Macron, devait recevoir la visite du président cet après-midi et que le président a choisi d'annuler cette visite.
Je le regrette. Je pense que Monsieur Orsucci ne méritait pas une punition pour avoir signé ce texte qui n'est pas une déclaration d'indépendance. Hein. Ça n'est pas. C'était un texte très raisonnable qui ne faisait que reprendre finalement des délibérations qui avaient déjà été votées par l'Assemblée avant notre prise de pouvoir.
Est-ce que vous avez lu l'interview de l'ancien ministre de l'Intérieur il y a 20 ans au moment des faits qui ont été célébrés ce matin, ou plutôt commémorés ce matin, la mort, l'assassinat du préfet Claude Erignac il y a 20 ans jour pour jour? Le ministre de l'Intérieur était Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que vous avez lu cette interview hier dans Le Monde?
Oui, je l'ai lu un petit peu.
Est-ce que vous avez apprécié le contenu, la tonalité?
Je l'ai lu en diagonale parce que ça ne me paraît pas déterminant dans la situation actuelle que de connaître la vie de Monsieur Chevènement, que l'on connaît du reste depuis fort longtemps.
Mais qui vous connaît aussi, fortement, Monsieur Talamoni, qui vous connaît depuis très longtemps. Et il dit, vous avez une politique qui est toujours la même, c'est celle des petits pas. La politique du toujours plus.
Non, mais Monsieur Chevènement, je crois, est disqualifié par son parcours gouvernemental en Corse. Il ne faut pas oublier que c'est la personne qui a installé le préfet Bonnet, en le qualifiant de l'homme qu'il faut là où il faut. On sait que le préfet Bonnet a ensuite organisé avec les principaux responsables administratifs et militaire, la gendarmerie en Corse, une véritable association de malfaiteurs pas seulement la répression, c'était des actions illégales, comme vous le savez. D'ailleurs, le préfet
s'est retrouvé.
Les paillotes, c'est un peu folklorique, mais il y avait, on sait tout ce qu'il y a derrière. Il y avait notamment un projet, le projet de tirer au fusil d'assaut. C'était un fusil d'assaut qui était étaient déjà en leur possession, un AR-15, un M16. Donc, il était question de tirer sur les domiciles des responsables nationalistes.
Ce sont des choses qu'on vous entend beaucoup répéter, monsieur Talamani. Est-ce que vous allez les répéter au président de la République ce soir? Est-ce que vous allez lui dire qu'en gros, la République doit s'excuser aussi de ce qu'elle aurait fait ces 20 dernières années?
On n'est pas sur ce registre-là. Nous, aujourd'hui, nous voulons regarder l'avenir. Maintenant, bien sûr que le passé, il y a une histoire commune. Il y a eu des drames qui ont émaillé les 40 années de conflit. Il y a eu l'usage de la force des deux côtés et du côté de l'État, souvent d'une force illégale et meurtrière. Cela a été reconnu d'ailleurs il y a quelques années par un ancien commissaire de police qui a parlé des projets d'assassinat de responsables nationalistes. Bon, ce sont des choses que l'on sait. Tourner la page. Merci. Plutôt que de se jeter au visage les uns et les autres, ce qui s'est passé et ce qu'on a à se reprocher, je crois qu'il faut tourner la page. Je crois qu'il faut rendre hommage aux morts. Oui, ça, il ne faut pas oublier les morts. Hein. Il y a, pendant ces 40 années, il y a eu un préfet, toutes les victimes, il y a eu des gendarmes, il y a eu des policiers. On n'en parle plus du tout. Oui. Un préfet. Et puis, il y a eu des militants nationalistes en grand nombre.
Merci. Donc, Jean-Guy Talamani, il faut qu'on s'arrête là. Excusez-moi. En tout cas, on vous réinterrogera, j'imagine, après votre entretien avec le chef de l'État pour voir effectivement si ce dialogue que vous appelez de vos voeux s'est bien passé. Merci encore d'avoir accepté d'être en direct avec nous. Merci à Ludovic Piétenu et à Clémence Bonfils pour la technique. La météo, neige, grand froid sur presque toute la moitié nord de la France. 32 départements au total en vigilance orange. À la neige et au verglas, la SNCF annonce la réduction de la vitesse des trains qui, en partie sur son réseau, notamment sur l'Ouest. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.